Je vais parcourir quelques réflexions et quelques versets pour découvrir quelle est notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Quels ont été, quels sont encore les pièges que l'ennemi qui nous guette place sur notre chemin? Dans Actes 3:19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Une conversion peut avoir 5 ou 10 ans, 50 ans ou même plus. Quel moment extraordinaire que l'on vit à ce moment-là. Pour certains, c'est d'une intensité, d'une force qui vous fait trembler. D'autres, c'est une grande joie, une profonde paix qui descend sur vous, sur tout notre être. D'autres, c'est une délivrance. Il y a mille et une façons de vivre une nouvelle naissance. Mais il faut la vivre. À ce moment-là, on devient une nouvelle création. On n'est plus sous la condamnation, on est sous la grâce de Dieu. 1 Pierre 1:23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, si l'on est régénéré, que se passe-t-il à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on sort de notre cœur? Libéré? Vraiment libéré? Non, pas complètement. Mais nous voilà sur le bon chemin, car il nous faut encore tous les jours, et encore tous les jours, lutter pour rester vraiment libre. Romains 3:29. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Je laisse juste mon commentaire. Je ne suis pas meilleur parce que je me suis converti. Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont sous l'emprise du péché. Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Est-ce une contradiction avec ce que je viens de dire? Alors, la nouvelle naissance serait un échec? Non. Dès ma naissance, je suis pécheur. C'est un héritage. Je suis contaminé par le péché. Donc, comme son nom le dit bien, à ma nouvelle naissance, indispensable, je vais naître. Je vais être celui que Dieu voulait voir dans la création avant la chute. Je suis une nouvelle création. Qui vient prendre la place à ce moment-là dans mon cœur, dans ma vie? Éphésiens 1:13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Scellés, fixés, attachés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, ce n'est pas rien. Réalisons-nous vraiment ce qui se passe en nous à ce moment-là? Et qui il est, et qui habite en nous. Quel honneur qu'il nous fait d'habiter en nous. Et nous voilà une nouvelle création, tout neuf, tout prêt pour un nouveau départ. On resplendit de lumière. Que désire donc Dieu maintenant? 1 Corinthiens 3:16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes le temple de Dieu. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est un Corinthien. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous. En plus d'être scellé par le Saint-Esprit, Dieu vient habiter en nous. Le temple, un temple. Qu'est-ce que c'est qu'un temple? L'image que l'on a du temple de Dieu est celle d'un bâtiment cossu, fait de pierre et de cèdre, avec des décors faits des plus beaux tissus, avec de l'or. Quelque chose de majestueux, d'impressionnant. Mais voilà, ce temple n'existe plus. Il était détruit par les Romains. Il ne reste pas pierre sur pierre. Si le temple a été détruit, c'est que Dieu avait un projet. Bien plus grand encore qu'un temple fait de main d'homme. Il était détruit pour ouvrir une nouvelle dimension, où Dieu résidera. Vous avez bien entendu 1 Corinthiens 3, 16. Dieu désire résider en nous. Nous voilà le temple de Dieu. L'ancien temple a disparu, mais nous voilà le temple de Dieu. Avant notre conversion, le temple que nous devions être était inhabitable. Et à ce moment-là de notre conversion, que se passe-t-il? Eh bien, on a enlevé quelque chose de lourd au fond de notre cœur. En 2 Timothée 4, 18, le Seigneur me délivre de toute mauvaise œuvre. Et 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? On est scellé du Saint-Esprit. C'est là que commence une vie chrétienne, une vie en Jésus-Christ, une vie de service, d'enseignement, une vie de pasteur, une vie remplie de toutes sortes de bonnes œuvres. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé des bonnes œuvres à l'avance afin que nous les pratiquions. Donc il faut les saisir, ces bonnes œuvres. Il faut les exécuter. Jacques est sévère en 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Tout cela pour démontrer combien, après notre conversion, on est actif, dynamique, plein de zèle et pour faire plein de bonnes choses pour le Seigneur. Et si j'ose dire ainsi, tout roule dans le meilleur des mondes, si j'ose dire. Et voilà que la routine s'installe. Et toi, tu adores qui? Tu adores quoi? On n'y prend même pas garde, mais petit à petit, on est grignoté par la tolérance, l'indifférence ou le manque d'enseignement. Peut-être le manque de rigueur à la lecture de sa parole. Et l'on commence par accepter tout et n'importe quoi. Voilà que l'édifice, moi, le temple, commence à s'effriter, pas à cause de l'âge. La déco commence à tomber en lambeaux. Les murs se lézardent. Il y a de la poussière. L'éclairage s'assombrit. L'endroit ne devient plus très accueillant. Qu'est-ce qui entre dans notre cœur? Des pensées meurtrières? Peut-être pas. Mais il y a parfois des mots qui sont assassins. Ensuite, que fait-on de nos loisirs, de notre vie? Qu'est-ce qui prend la place? Pas toujours des bons films là-dessus. On se laisse influencer par ce que le monde dit, ce que le monde pense. On devient esclave de certaines pensées, de certains courants, façon de faire, façon de vivre. Alors on remplit encore notre cœur. Un des mots les plus, terribles, mais un des mots qui peut nous prendre bien du temps, l'argent. L'argent n'est plus une place très importante dans notre cœur. Mais à l'opposé de l'argent, il y a la radinerie. On est avare, qui peut aussi prendre beaucoup de place. Il y a aussi l'orgueil, la jalousie, l'arrogance, le manque d'amour. Mais il y a encore tant de choses à mettre. Je vous laisse le soin d'imaginer tout ce que vous pouvez mettre dans votre cœur. Mais j'ai gardé pour le dessert la langue, qu'on en a tous une. Jacques nous dit, 3,16, la langue est comme un feu. Elle est un monde de mal qui a sa place dans notre corps et infecte tout notre être entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence du feu qui lui vient de l'enfer. Pas moi qui le dis, hein, c'est Jacques, de ce feu qui vient de l'enfer. On atteint les sommets de l'obscurcissement. C'est dur à entendre. Et c'est encore moins accepté parce qu'on a tous une langue. Et Jacques, là, n'y va pas par main morte. Et il y a un verset très étrange dans Corinthiens que j'ai longtemps pensé qu'il ne me concernait pas. Parce que j'ai en horreur tout ce qui touche à l'occultisme et j'ai un grand mélange de crainte avec. Je n'y touche pas. Alors je me suis dit, tiens, ce verset-là ne concerne pas. C'est en Corinthiens 10, 20. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Alors je pensais que si je faisais de l'occultisme, les jeux de hasard, chercher une diseuse de bonne aventure, etc., eh bien, j'étais à la table des démons. Alors, puisque je ne pratique pas ces choses-là, je me dis, ben, ça ne me concerne pas. Ben non. C'est bien plus simple que je ne le pensais quand j'ai trouvé le commentaire à ce sujet. Imaginez, vous êtes à table. Le moment est sympa, vous êtes avec des amis ou en couple. Le repas est bon. L'instant est fraternel, chaleureux. Puis vient un moment où on commence à se mettre à critiquer. On casse du sucre, avant même le dessert. Et comme on dit, histoire de meubler, tout le monde y passe. Un tel pour ses idées, un tel pour sa façon de voir les choses, un tel pour son projet, un tel parce qu'il ne pense pas comme moi, et l'autre parce qu'il est bête, etc., etc. La langue. Jacques 3, 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Donc imaginez ce tableau. Si on est à la table du Seigneur, eh bien, on ne va pas entrer dans ce jeu-là. Et il y a une coutume juive qui dit que si pendant un repas, on n'a pas partagé trois fois la parole, on a raté le repas. Donc je pense que si effectivement, dans un repas, on commence à détruire tout et tout le monde autour de soi, on est assis à la table des démons. Et puis, le temps passe. On n'a rien vu venir. On ne voit pas qu'il y a eu des changements profonds qui ont altéré notre foi. Les idoles prennent gentiment la place. On n'arrive même plus à se remettre en question. On est normalisé. On est sans cœur. Et il faut parfois un drame profond pour qu'on en se réveille et qu'on lève le voile. Thessaloniciens 2, 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, moi, se proclamant lui-même Dieu. Le verset est un peu sorti de son contexte car il est cité lors d'événements précédant le retour de Jésus. Mais ne sommes-nous pas dans ce temps-là? L'ennemi ne redouble-t-il pas d'intensité dans l'attaque contre son peuple? N'essaie-t-il pas de nous charger par tous les moyens, doux ou violents, nous les chrétiens, et aussi le peuple juif? Alors qui j'adore? Qui je sers? Qui prend la place dans le temple que je suis? Lire la Bible, c'est se laisser pénétrer de sa lumière pour vivre ce qu'elle nous dit. Alors elle exercera sa puissance transformatrice dans nos pensées et sur notre conduite. Un grand progrès en appellera un autre. Le grand secret pour mieux comprendre la parole de Dieu, c'est de mettre en pratique ce qu'elle nous a déjà appris. Amen.